France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour. Sylvie Goulard ne fera pas partie du prochain gouvernement. La ministre des Armées l'a annoncé tout à l'heure. Elle veut démontrer sa bonne foi dans l'enquête qui vise le MoDem. Réunion du bureau politique tendu au Front National. Les règlements de compte post-élection commencent. Et voilà que Jean-Marie Le Pen ressurgit. Il s'est présenté ce matin à l'entrée du siège. L'enquête sur la tentative d'attentat ratée hier sur les Champs-Élysées. L'homme était fiché S depuis 2015 pour appartenance à la mouvance islamiste. Et malgré cela, il disposait d'une autorisation de détention d'armes, incompréhension dans l'opinion publique. L'invité de la séquence interview sera la députée de la France Insoumise Clémentine Autain. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert.
Nous, on part en voyage puisqu'il fait beau aujourd'hui avec le juriste Emmanuel Dauquès. Voyage en misarchie. La misarchie, qu'est-ce que c'est? C'est un régime imaginaire où les pouvoirs et tous les modes de domination sont réduits au maximum. J'invite donc votre invité Antoine Maret à écouter. Ça va vous plaire ce voyage. Nous, on sera donc ensemble avec Emmanuel Dauquès dans une vingtaine de minutes.
À tout à l'heure. On devrait connaître au plus tard demain la composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe, mais une chose est désormais sûre, Sylvie Goulard n'en fera pas partie. C'est la ministre des Armées elle-même qui l'a annoncé ce matin, et c'est elle-même qui l'a décidé, afin, je cite, de démontrer sa bonne foi dans l'enquête visant le MoDem, parti dont elle est issue. Bonjour Ludovic Piétonnier.
Bonjour Antoine.
On résume donc, Richard Ferrand quitte le gouvernement, et maintenant Sylvie Goulard pour des soupçons qui visent le MoDem. La théorie des dominos pourrait-elle atteindre François Bayrou, puis Marielle de Sarnez?
On en prend le chemin, Antoine, car ce départ de Sylvie Goulard est étonnant. On la sait très proche d'Emmanuel Macron. Parmi les centristes du MoDem, elle est l'historique, la première à qui il a donné toute sa confiance. C'est elle, par exemple, qui a chapeauté pendant la campagne plusieurs déplacements à Berlin et Bruxelles, au point qu'on l'imaginait au ministère des Affaires européennes, avant qu'elle n'obtienne finalement le portefeuille des armées. Aujourd'hui, visée par cette enquête, avec deux autres membres MoDem du gouvernement, Marielle de Sarnez et François Bayrou, elle motive sa décision ce matin dans un communiqué dans le but, écrit-elle, d'être en mesure de démontrer librement sa bonne foi. François Bayrou oppose une décision qu'il qualifie de personnelle, comme s'il n'avait tout à coup rien à voir avec les soupçons qui le visent lui aussi. Quant à Marielle de Sarnez, elle explique dans le même temps que pour elle, tout est ouvert, quitter le gouvernement, comme prendre la présidence du groupe MoDem à l'Assemblée, comme si elle fléchait déjà son propre avenir, un peu à la manière de Richard Ferrand, hier soir, qui quittait son ministère pour présider le groupe des marcheurs au Palais Bourbon. On pressent donc dans les actes et les paroles de ces trois-là que c'est un départ en bloc qui se prépare. Dimanche soir, Emmanuel Macron a obtenu la majorité absolue sans l'aide du mouvement démocrate. Il a les mains libres et cette affaire des assistants parlementaires du MoDem était de toute façon, avec l'affaire Ferrand, des cailloux de trop dont il n'a absolument pas besoin pour commencer un mandat.
Merci Ludovic Piétonnu. Bonjour Emmanuel Dauquès.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'université de Paris-Ouest Nanterre, invité de la seconde partie de la Grande Table, auteur de Voyage en misarchie aux éditions du Détour. Des ministres qui démissionnent ou sont poussés à le faire, non plus parce qu'ils sont mis en examen, mais simplement parce que leur parti d'origine est visé par des soupçons. Est-ce qu'on ne va pas un peu loin?
Alors, la responsabilité collective, évidemment, c'est un problème. Il convient que les responsabilités soient individuelles et que ce soit en fonction de ça que les choses soient décidées. Cependant, un certain nombre d'histoires un peu bizarres, un peu troubles sont en train de circuler et que ces personnes, finalement, préfèrent se mettre en retrait semble plutôt sain dans une démocratie qui a vraiment besoin de transparence et qui a vraiment besoin de clarté de la part des personnes qui gouvernent.
Merci à vous Emmanuel Dauquès, on vous retrouve dans la seconde partie de la Grande Table. Depuis hier, de nouveaux visages viennent visiter le Palais Bourbon, de nouveaux députés parfois très jeunes qui découvrent le lieu dans lequel ils vont siéger pendant 5 ans normalement. Beaucoup font partie de La République En Marche qui a obtenu la majorité absolue et ce groupe aura face à lui non pas une opposition mais des oppositions, le PS, le FN, LR et les Insoumis. Et la liste pourrait s'allonger, Stéphane Robert, car le PS et LR pourraient eux-mêmes se fragmenter.
Oui, on pourrait bien assister dans les prochains jours à une atomisation de l'opposition à l'Assemblée nationale. Partons du tableau de départ. On a un groupe majoritaire, La République En Marche, avec 308 députés, associé à son allié le MoDem, 42 élus. On en est donc à 350 députés pour la majorité à l'Assemblée. En face, potentiellement, on a 227 députés d'opposition. Seulement, elle est très morcelée, cette opposition. Regardez déjà, à l'extrême gauche, les communistes et la France insoumise sont encore une fois en train de se chamailler. Les 16 députés de la France insoumise doivent, entre autres, se soumettre à une sorte d'allégeance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon en signant une charte qui implique une discipline de vote collective. Or ça, apparemment, ça ne plaît pas vraiment aux 11 communistes. Et du coup, il n'est pas du tout certain qu'ils réussissent à créer un groupe en commun. On en revient à la même situation qu'on a connue avant la présidentielle. Même chose pour les socialistes. En théorie, vous avez 29 LUPS, plus les divers gauches, ça fait 44. Mais parmi tous ces députés, si vous regardez bien en détail, combien sont presque en marche? Combien sont de potentiels soutiens d'Emmanuel Macron? Une majorité sur 44, on en dénombre environ 25. Ce qui a fait dire à la députée des Deux-Sèvres Delphine Bateau ce matin sur France Inter, il va falloir qu'on se compte. Et à droite, c'est pareil, vous avez 131 députés, 113 les Républicains, 18 UDI. Alors déjà, est-ce que l'UDI constitue son propre groupe? C'est déjà une première question. Ensuite, au sein même de les Républicains, il y a de profondes divisions entre d'un côté les tenants d'une opposition résolue et de l'autre, ceux qui se font déjà appeler les constructifs. Or, s'il y a des appels au maintien de l'unité, le député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire, a déjà annoncé ce matin, encore sur France Inter, la probable création d'un groupe LR tout prêt à participer à l'action gouvernementale. Nous sommes largement plus de 15, donc il y aura un groupe, a dit Solaire. On pourrait donc avoir une opposition complètement atomisée à l'Assemblée, avec les mêmes clivages qu'on a connus au sein des différentes familles politiques avant la présidentielle. Emmanuel Macron, avec En Marche et sa position centrale sur l'échiquier politique, continue d'être une bombe à fragmentation pour les autres formations politiques.
Merci Stéphane Robert. Et parmi cette opposition, ces oppositions, il y a les insoumis qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale ce matin. Ils sont 17, de quoi constituer un groupe parlementaire. Et parmi eux se trouve le leader Jean-Luc Mélenchon, ce qui nous promet des moments hauts en couleur dans l'hémicycle. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Vous étiez sur place au Palais Bourbon.
Oui, une arrivée groupée, une photo de famille, le poing levé pour les nouveaux députés qui souhaitent incarner l'opposition à l'Assemblée nationale et réunis autour de leur futur chef de groupe Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes un groupe de combat, déclare Danielle Obono, la jeune députée de 36 ans, seule candidate France Insoumise élue à Paris. Elle vient prendre ses marques, comme les deux députés du Nord, seulement âgés de 27 et 28 ans. Alors comment peser face à une majorité aussi forte dans l'hémicycle? Pour élargir son assise, Jean-Luc Mélenchon a interpellé ce matin les socialistes. Ne votez pas la confiance au gouvernement et on pourra discuter, a-t-il lancé. Envers les communistes, l'affaire semble mal engagée, effectivement. La France Insoumise demandant un ralliement sur les mêmes bases que les législatives, un groupe discipliné, ce qui ne passe pas pour l'instant dans les rangs du PCF. Le nouveau député des Bouches-du-Rhône espère même fissurer la majorité présidentielle en convainquant quelques députés, comme le mathématicien Cédric Villani, qui ne sait pas ce qu'est un contrat de travail. Je vais lui expliquer, ironise Jean-Luc Mélenchon. C'est un groupe qui fera remonter les infos du terrain, selon Caroline Fiat, cette aide-soignante de 40 ans, députée de Meurthe-et-Moselle. Elle souhaite porter la voix des travailleurs en souffrance, quand François Ruffin espère, lui, une manifestation dès lundi prochain, place de la République à Paris, pour l'entrée en fonction des députés dans l'hémicycle et articuler ainsi le concept d'une opposition nourrie et portée par l'engagement citoyen. Parmi les moyens d'action, il se verrait bien réaliser un nouveau documentaire intitulé cette fois « Merci Macron ».
Invité de ce journal, Clémentine Autain. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes l'une de ces députées insoumises, élue en Seine-Saint-Denis.
J'ai été élue dans le cadre d'une campagne qui a rassemblé les insoumis, le Parti communiste français et mon mouvement Ensemble. Et je tiens à cette unité, à ce rassemblement.
Et vous serez sous quelle étiquette ?
Je me bats cette semaine pour que nous ayons un groupe commun entre les députés communistes et les députés insoumis.
Alors justement, ce groupe commun entre les communistes et les insoumis, vous le souhaitez, mais c'est loin d'être gagné. Hein.
Je le souhaite, donc je ne pars pas défaitiste. Nous sommes mardi et c'est une question importante parce que nous avons soutenu le même candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que sur l'essentiel des votes, s'il y avait deux groupes, ils voteraient finalement la même chose. Donc je trouve qu'il y a une rationalité politique et même un devoir vis-à-vis de nos électeurs d'être ensemble. Nous serions une force plus importante.
Merci Clémentine Autain. On vous retrouve dans la partie interview de ce journal. On va faire maintenant le grand écart en passant de la France insoumise au Front National avec cette réunion du bureau politique sous tension qui se tient actuellement au siège du Front National à Nanterre. La première depuis la présidentielle et le second tour raté de Marine Le Pen. Et donc la première depuis des législatives décevantes pour le parti d'extrême droite qui voit s'affronter un courant souverainiste incarné par Florent Philippot et un courant plus conservateur. Et alors que les règlements de compte commencent dans le parti, un ancien acteur a fait son apparition ce matin, et non des moindres. Bonjour Christine Monclar.
Bonjour Antoine.
C'est tout simplement Jean-Marie Le Pen qui s'est présenté à l'entrée du siège, mais l'accès lui a été refusé.
Et oui, le service d'ordre du Front National avait cadenassé la grille d'entrée et Jean-Marie Le Pen a fait constater par huissier l'entrave qui lui était faite, car même s'il n'était pas invité à ce bureau politique, il a légalement le droit d'y assister en tant que président d'honneur. Devant les dizaines de micros et caméras qui l'attendaient, le père de Marine Le Pen n'a pas lésiné sur les formules tonitruantes. Je cite le manque de reconnaissance du ventre de sa fille à qui il vient de prêter quelques millions d'euros pour sa campagne. Mais c'est aussi une leçon politique qu'il est venu délivrer, car pour lui, Marine Le Pen devrait tout simplement rendre son tablier.
Le Front National vient de subir deux échecs cinglants. La règle démocratique et républicaine, c'est à l'exemple, mon Dieu, si on peut dire ainsi, de M. Cambadélis. Dans ces conditions, on démissionne. Je pense donc que le bureau exécutif du Front National aurait dû démissionner.
Voilà, Jean-Marie Le Pen qui cite en exemple l'ex-patron du Parti Socialiste Cambadélis, voilà qui est étonnant, mais qui dit aussi son niveau d'amertume, mais pas seulement personnel, mais politique, car pour lui, Marine Le Pen fait une erreur avec sa ligne ni gauche ni droite, en n'assumant pas une ligne identitaire de droite. Et sur ce point, le fondateur du FN n'est pas le seul à le penser. De plus en plus de cadres nationaux remettent ouvertement en cause l'influence de Florian Philippot. Sera-t-il soutenu encore par Marine Le Pen? C'est toute la question de ce bureau politique post-électorale, du prochain séminaire de fin juillet et a fortiori du congrès du Front National.
Merci à vous Christine Monclar. Midi passé de 41 minutes sur France Culture, l'enquête sur la tentative d'attentat raté hier sur les Champs-Élysées. Quatre membres de la famille de l'assaillant ont été placés en garde à vue. L'homme était fiché S depuis 2015 pour appartenance à la mouvance islamiste. Et malgré cela, il disposait d'une autorisation de détention d'armes car il pratiquait le tir sportif. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour Antoine.
Le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu ce matin que personne ne pouvait se satisfaire de cette situation. Alors comment l'expliquer ?
Alors tout d'abord, il est possible d'avoir une arme chez soi. Soit vous êtes chasseur et via votre fédération vous obtenez le droit de détenir un fusil. Soit vous êtes un tireur sportif et à nouveau via votre fédération vous pouvez enclencher les procédures qui vous permettent de détenir une arme à votre domicile. Et dans tous les cas, vous n'obtenez pas une autorisation à vie. Elle doit être renouvelée tous les 3 ou 5 ans. Dans cette affaire, tout a été fait légalement. Le jeune terroriste qui pratiquait le tir a obtenu une autorisation de détention d'armes. Quand il a obtenu son autorisation de détention d'armes, il n'était pas fiché S. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Cette autorisation aurait pu lui être retirée en revanche s'il avait fait une demande de renouvellement. Car dans ce cas, la préfecture aurait regardé son casier et aurait pu s'apercevoir du problème. Et pour l'instant, on ne sait pas si une demande de renouvellement avait oui ou non été déposée. À ce stade, le Premier ministre attire l'attention encore sur deux points. Le premier, c'est une évolution de la législation qui a été demandée et qui devrait permettre à l'avenir au service de préfecture de vérifier à tout moment la situation des détenteurs d'armes. Le second point qui n'est pas tranché, c'est de savoir que si vous avez une arme et que subitement on vous retire le droit d'avoir cette arme parce que vous êtes fiché S, cela veut dire que vous prévenez d'une certaine manière la personne concernée qu'elle peut être fichée et du coup vous compliquez le travail des policiers qui ne peuvent plus effectuer leur surveillance sereinement.
Merci à vous Nathanaël Charbonnier.
À midi 43, la suite de votre journal, Antoine Marette, avec la question des retraites. Quel avenir pour les retraites? Il y avait une amélioration annoncée l'an passé et elle risque d'être un peu plus lente que prévu.
Et oui, le système de retraite ne devrait retrouver son équilibre qu'en 2040 et non au milieu de l'année de la prochaine décennie. C'est ce que révèlent les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, des perspectives qui risquent de compliquer la réforme du système qui est dans le programme d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Chardon.
Oui, et ce n'est pas très rassurant, ce pronostic du corps qui réunit des partenaires sociaux et des experts sur les retraites. Un organisme qui est censé être indépendant vu la pluralité des membres qu'il constitue. Alors il faudra attendre, vous l'avez dit, 2040 avant de sortir des déficits. Et encore est-ce optimiste puisqu'il faudrait compter sur une croissance de 1,8%, un rythme nettement supérieur à la moyenne actuelle. Du coup, eh bien, le scénario le plus probable nous amènerait à une sortie des déficits au milieu du siècle. Vous voyez donc l'écart entre les précédentes prévisions et celles qui tombent aujourd'hui, sans doute quelques 25 ans de plus pour sortir du rouge. C'est-à-dire que le vent d'optimisme qui a soufflé l'année dernière est en train de s'estomper. Alors pourquoi, me direz-vous, cet écart de prévision qui est considérable? Déjà, une révision des calculs liés à la population active, elle augmenterait moins que prévu. Les effets d'un solde migratoire en baisse, moins de cotisations donc à l'arrivée. Un taux de chômage qui mettrait plus de temps à se résorber. On serait autour d'un niveau de chômage de 7% dans les années 2030, soit un taux relativement élevé encore. Et puis une dynamique salariale inférieure à ce qui était attendu. Voilà en tout cas à grands traits ce qui expliquerait ce ralentissement. On parle bien sûr au conditionnel. Des données qui peuvent évoluer, on a bien compris, mais à l'heure où l'exécutif voudrait lancer son projet de réforme par points, eh bien le faire dès l'an prochain d'ailleurs, tout en conservant la retraite par répartition, ça va rendre de toute façon l'exercice un peu plus difficile.
Merci Jean-Marc Chardon. Dans l'actualité internationale en Syrie, l'heure est à l'escalade entre Russes et Américains. Après que la chasse américaine a abattu dimanche un avion syrien qui bombardait ses alliés kurdes près de Raqqa dimanche après-midi, Moscou annonçait hier vouloir rompre son canal de communication avec les Américains. Lequel canal permettait d'éviter toute confrontation entre appareils russes et occidentaux dans le ciel syrien. Pire, Moscou annonçait également que les avions occidentaux seront dorénavant pris pour cible s'ils s'aventuraient à l'ouest de l'Euphrate. Des menaces qui ont de quoi inquiéter, Eric Bigala.
Oui, les aéronefs de la coalition occidentale, majoritairement américains, mais aussi français, britanniques, hollandais, australiens ou encore canadiens, constituent la principale force de frappe en Syrie, en appui des forces démocratiques syriennes, emmenées par les Kurdes, qui depuis le début du mois ont lancé l'offensive contre Raqqa, la capitale syrienne de l'État islamique. Les menaces russes ont de quoi inquiéter, parce que la Russie a déployé sur le théâtre syrien un véritable arsenal, un système intégré de missiles anti-aériens, comprenant radars de tir et de nombreuses batteries de missiles S-200, S-300, S-400, ces derniers ayant une portée théorique de près de 400 km. Tel quel, ce dispositif permet aux Russes de frapper n'importe quel appareil évoluant dans le ciel syrien, mis à part peut-être à l'extrême est du pays. Un dispositif lourd, opérationnel depuis la fin de l'année dernière et qui, à vrai dire, ne pouvait que viser les Occidentaux, les rebelles, les Kurdes ou l'État islamique ne disposant pas d'aéronefs en Syrie. En déployant pareil arsenal anti-aérien l'an dernier, la Russie semblait poursuivre un objectif simple, établir une sorte de zone d'exclusion aérienne dans le ciel syrien, interdisant potentiellement à tout appareil autre que russe ou syrien d'y opérer. Cela n'a pas empêché la coalition de poursuivre ses missions en Syrie, essentiellement d'appui aérien rapproché au profit des Kurdes se battant contre Daesh. Depuis 2015 existe d'ailleurs un canal de communication dit de déconfliction entre Russes et Américains qui se préviennent les uns les autres, histoire d'éviter que leurs avions se retrouvent nez à nez au-dessus du théâtre syrien ou que les appareils occidentaux se retrouvent accrochés par les radars de tir des batteries russes. Depuis hier, les Russes ont annoncé qu'il rompait cette ligne de communication. Prudemment, les forces de défense australiennes ont annoncé ce matin qu'elles retiraient également leurs appareils du théâtre syrien.
Merci Eric Bigala. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie pour une loi condamnant la propagande homosexuelle devant des mineurs. Cette législation date de 2013. Elle réprime, je cite, « la promotion des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs ». La Cour européenne des droits de l'homme estime que ce texte a renforcé, je cite, « la stigmatisation des homosexuels et encouragé l'homophobie qui est incompatible avec les valeurs d'une société démocratique ». Au moins 3000 personnes ont été tuées depuis octobre 2016 dans le centre de la République démocratique du Congo. Ce chiffre est avancé par l'annonciature apostolique du pays. Le Kasaï est le théâtre de violences, exécutions sommaires, meurtres d'enfants, recrutement d'enfants soldats et violences sexuelles. Midi 48 sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. L'invité est Clémentine Autain, elle est interviewée par Sophie Delpont.
Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Alors vous disiez tout à l'heure, au cours du journal, que vous faisiez partie de ceux qui tentent d'arriver à un accord entre les communistes et les insoumis. L'accord n'a pas eu lieu pour les législatives. Est-ce que vous avez encore espoir que d'ici vendredi, il y ait une alliance et un groupe commun ?
C'est pas une affaire d'espoir, c'est une affaire de volonté et de cohérence politique. Voilà, je pense que nous gagnerions à faire partie du même groupe. Pour autant, on va pas focaliser que là-dessus. Les combats que nous avons à mener dans les semaines et les mois qui viennent vont être décisifs et je ne doute pas que, groupe commun ou pas, nous les mènerons ensemble.
Mais qu'est-ce qui bloque là? Et vous avez l'air un petit peu seul là dans ce combat.
Non, je ne suis pas seule. François Ruffin appelle aussi à ce rassemblement. Je pense qu'Elsa Faucillon, Stéphane Peu, qui sont aussi députés, sont dans le même état d'esprit. Il y a après toute une histoire. On ne va pas la refaire maintenant. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir advenir à l'Assemblée nationale des députés conquérants qui vont tenir tête à la majorité En Marche, notamment sur la question de la loi sur le travail, qui vont aussi donner de la voix parce que la loi de moralisation est très en deçà des besoins aujourd'hui face à la crise démocratique que nous traversons, qui est une crise gravissime. Hein, quand vous avez plus d'un électeur sur deux qui ne se déplace pas et que la majorité actuelle est très importante par rapport à la réalité politique du pays, on est dans une situation qui est intenable. Donc je crois que nous rentrons paradoxalement, puisque Emmanuel Macron a sa majorité, mais nous rentrons dans une période d'instabilité politique. Et vous verrez que ma famille politique, notre famille politique sera au rendez-vous pour donner de la voix. Vous allez entendre parler de nous vraiment, franchement. Et on sera à l'intérieur de l'Assemblée nationale et aussi en dehors de l'Assemblée nationale pour faire grandir dans le pays la voix de la contestation de ce qui se prépare en termes de régression sociale, mais aussi la voix de l'espoir. Parce que ce qui s'est produit au moment de cette présidentielle autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et dans ce temps législatif, vous avez vu quand même que nous avions recueilli davantage de suffrages et de sièges, surtout que ce qui était prévu. Il se passe quelque chose du côté de l'espérance et de la reconquête populaire. C'est ça qui se passe. C'est que la façon dont nous avons rempli le mot « gauche », pas simplement en disant « regardez, on est de gauche, on est à vraie gauche », mais au contraire en expliquant ce que cela signifie. Ça signifie sortir des politiques néolibérales qui sont menées depuis plusieurs décennies, tenir tête à l'échelle européenne, ça veut dire arrêter avec la réduction des dépenses publiques, défendre une logique de bien commun. Tout ça a été compris, je pense, de façon nouvelle, parmi les milieux populaires qui étaient désespérés de la gauche et désespérés de la politique.
Mais il n'y a pas eu d'accord entre les insoumis et les communistes au moment des législatives ? Pourquoi y en aurait-il au sein de l'Assemblée ?
Mais pourquoi vous voulez absolument ? Je le regrette, je peux vous le dire dans tous les sens, etc. Il faut retrouver le chemin de l'unité, mais ce qui m'importe, c'est quand même de constater que nous sommes dans une situation de dynamique politique qui est une bonne nouvelle pour le pays, je pense, hein, pour notre famille politique, mais aussi pour le pays.
Au niveau de l'action dans l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon a dit ce matin qu'il était prêt à voter certaines mesures, notamment sur la loi de moralisation.
Mais bien sûr.
Donc ce sera au cas par cas.
Mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, si on vote des éléments qui vont vers le non-cumul des mandats, on va le voter sur la transparence ou qui enlève un certain nombre de privilèges qui peuvent être attachés aujourd'hui à certains mandats, on va les voter. Pour autant, vous nous entendrez taper du poing sur la table en disant que c'était une 6e République qu'il fallait. Voilà. On va être cohérent, donc on va pas s'opposer en tout point à ce que va faire Emmanuel Macron. S'il décide d'avoir des propositions qui sont utiles pour le pays et que nous jugeons positives, nous les voterons. Maintenant, s'il veut donner encore plus de voix, vent dans les voiles de l'état d'urgence qui ne permet pas de combattre le terrorisme, mais qui par contre lamine les libertés publiques, en instaurant un état d'urgence dans le droit commun, vous nous entendrez très fortement l'Assemblée nationale contester cette attaque aux libertés.
François Ruffin déclare qu'il mettra sa rémunération au niveau du SMIC. Il déclare aussi qu'il sera, donc son mandat sera révocable par pétition. Ce sera votre cas ?
La révocabilité, bon écoutez, je préfère partir d'un principe de rapport de confiance. Hein. S'il n'y a pas cette confiance, évidemment qu'il faut pouvoir se séparer d'élus, ça me paraît évident.
C'est le mandat impératif ?
C'est le mandat impératif. C'est tenir ses engagements, tenir sa parole, oui.
Et rendre plus des représentatif.
Comptes, rendre des comptes, je pense que c'est aussi important de travailler avec la population, de trouver des biais aussi pour être proche de la population que l'on veut représenter. Je n'aime pas cette expression sur le terrain, mais vous voyez ce que je veux dire, de nouer des rapports qui sont des rapports au long cours et pas simplement pendant les élections. C'est important de le faire et c'est ça qui crée aussi de la confiance, de faire avancer des projets précis. Moi, par exemple, je défends le projet d'une université sur les terrains de la plaine Noncelleux à Sevran-Villepinte. Je vais me battre pour ça, c'est concret. J'aimerais qu'on ait une université parce qu'on est dans une situation de crise épouvantable à l'échelle nationale. Il y a 500 000 étudiants qui ne vont pas pouvoir être accueillis à l'université dans les années qui viennent. Et nous, le nord-est de la Seine-Saint-Denis, on est totalement démunis en termes de formation. Donc ça serait formidable, valorisant. Vous voyez, ça c'est positif. Je veux agir pour cela. Après, sur la rémunération, c'est vrai que j'ai fait le parcours avec la mallette. Nous sommes accueillis formidablement. Les personnels de l'Assemblée sont très chaleureux, très compétents. C'est tout à fait bien. Nous avons un certain nombre d'avantages pour faciliter la vie. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Je ne sais pas si tout est indispensable. Et c'est ça qu'il faudra regarder.
Merci à vous, Clémentine Autain, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. Et merci à vous, Sophie Delpont. Il va faire très chaud cet après-midi sur une bonne partie de la France. 29 à Ajaccio, 30 au Havre, 34 à Strasbourg, 36 à Paris et même 37 à Bordeaux. Seul Cherbourg profitera de la douceur avec 24 degrés, du soleil presque partout, à l'exception des Pyrénées, où le ciel sera couvert. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Tara Schlegel.